Mercredi 20 mars, c'est le printemps, bonne journée, il est midi.
France Bleu Paris.
Le journal de midi. Présenté par Thomas Schoner. Bonjour Thomas.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Cela fait partie chaque année des classements très attendus par les parents.
Oui, le classement des meilleurs lycées. On va vous expliquer comment le lire, hein, ce classement, parce que ce n'est pas forcément le taux de réussite au bac le plus important. Une enquête ouverte dans les Yvelines pour des soupçons de pédophilie. C'est l'ancien maire de la commune de Favrieux qui est mis en cause. Les victimes présumées avaient à l'époque entre 8 et 12 ans. Et puis, les communes d'Île-de-France sont en pointe dans le zéro pesticide. Deux tiers d'entre elles ont abandonné totalement les produits phytosanitaires. Le ministère de l'Éducation publie donc aujourd'hui son palmarès des meilleurs lycées de France. Mais qu'est-ce qu'un bon lycée finalement? Est-ce que c'est un établissement avec 100% de réussite au bac? Eh bien, pas forcément. Le ministère préfère mettre en avant l'indicateur de valeur ajoutée. En gros, c'est la capacité qu'a un établissement à faire progresser les élèves. L'indicateur qui regarde l'évolution des notes, l'origine sociale également des élèves. Sonia Princé, vous avez visité le lycée Eugène Delacroix. Il est à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Le taux de réussite au bac est finalement plus élevé qu'attendu. Quel est son secret ?
Le maître mot dans ce lycée, c'est bienveillance. Et ça commence par un sourire le matin aux 2000 élèves. Gilles Beck est conseiller principal d'éducation au lycée Eugène Delacroix et dirige l'équipe des surveillants.
Ils ne sont pas là juste pour fliquer les élèves, ils ont un rôle éducatif. Et on insiste tous les jours sur le fait qu'ils doivent dire bonjour à la grille, qu'ils doivent vraiment accueillir les élèves et avoir une bienveillance vis-à-vis d'eux. Le climat s'est apaisé en fait, tout simplement. Depuis 3 ans, je suis les mêmes élèves, la seconde, la première et la terminale. Et sur mes élèves, j'ai eu qu'un seul conseil de discipline avec une exclusion définitive. Donc on fait vraiment tout pour accompagner les élèves et pour les garder dans l'établissement et pour les mener à la réussite.
Exemple de réussite, Emma Jacques est en terminale, elle était en échec scolaire, absentéiste, elle est passée par 2 autres lycées avant d'arriver ici.
J'ai vraiment vu la différence, j'ai vraiment eu un suivi. On m'a vraiment encadré, on m'a vraiment poussé pour que j'arrive aux félicitations que j'ai eues à mon premier conseil de classe. Je suis assez confiante pour le bac. Mes professeurs me le répètent chaque jour. Ils sont assez fiers du travail que je fournis. Ils sont positifs.
Positifs, les professeurs donnent confiance aux élèves et forment une équipe très soudée. En parallèle des cours, ils proposent 63 projets différents. Ateliers Sciences Po, initiation à l'art oratoire, cinéma, théâtre. La pédagogie de projet fait aussi partie des recettes pour faire réussir les élèves.
Le reportage de Sonia Princé, ce classement bien entendu des meilleurs lycées par département est à retrouver sur francebleuparis.fr.
Le groupe Kingfisher va fermer 7 de ses magasins en Île-de-France.
Oui, le groupe qui est propriétaire des enseignes Brico Dépôt et Castor. Les résultats financiers ne sont pas bons. Kingfisher va fermer 11 magasins partout en France, selon donc les syndicats. Et donc, il y en a 8, excusez-moi, pas 7, hein, en Ile-de-France, c'est moi qui ai fait l'erreur. Pont-au-Combo, Éragny et Aisanville dans le Val-d'Oise. Il y a également Ballainvilliers dans l'Essonne, les Castorama de la Défense et du 19e arrondissement de Paris. Un Brico Dépôt est également menacé, celui de Flins-sur-Seine dans les Yvelines.
Dans les Yvelines, l'ancien maire de la commune de Favrieux, au sud de Mantes-la-Jolie, est accusé de pédophilie.
Oui, parquet de Versailles a ouvert hier une information judiciaire pour des soupçons de viol, mais aussi pour détention d'images pédopornographiques. Cet homme, c'est donc l'ancien maire de la commune, c'est aussi un ancien agriculteur aujourd'hui à la retraite. Tout se serait déroulé dans sa ferme entre 1995 et 2000. Les victimes présumées avaient à l'époque entre 8 et 12 ans. Plusieurs plaintes ont été déposées récemment, Mayonne-Bordon.
Oui, c'est à la suite de ces plaintes que l'octogénaire a été interpellé la semaine dernière. Celui qui a été maire de Favrieux entre 2001 et 2014 a nié les faits en garde à vue. Une garde à vue qui aurait été interrompue car le suspect présenterait des signes de démence sénile selon un expert psychiatre qui l'a examiné. Difficile d'en savoir plus sur cette affaire. Le parquet de Versailles ne communique pas puisque des mineurs sont impliqués. L'enquête est désormais entre les mains d'un juge d'instruction.
Et Maïwan, cette affaire fait forcément beaucoup parler dans la commune.
Oui, car à Favrieux, il y a 150 habitants, on l'imagine, donc tout le monde se connaît. Une centaine de photos mettant en scène l'ancien maire avec des enfants dénudés auraient été saisies à son domicile. L'agriculteur à la retraite avait effectivement toujours des jeunes autour de lui et accueillait des scouts sur sa propriété. C'est ce que m'a confirmé ce matin Lionel Lemarié, le maire actuel de la commune. Il a bien connu son prédécesseur puisqu'il a été son adjoint à partir de 2010. Aujourd'hui, Lionel Lemarié est partagé entre choc et colère, mais l'édile tient à rappeler que l'ancien maire de Favrieux est présumé innocent.
Explication signée Maïwenn Bordron. Des policiers sur les Champs-Élysées ce matin en hommage à Xavier Jugelet, tué il y a deux ans lors d'une attaque djihadiste sur justement les Champs-Élysées. La plaque commémorative dédiée aux policiers a été taguée samedi dernier en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Les syndicats ont demandé à ce qu'il y ait des rassemblements partout en France. Dans le Val-de-Marne, des professeurs et des parents du lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi ont décidé de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Cela fait des mois qu'ils dénoncent la présence d'amiante dans les faux plafonds de l'établissement. Les cours aujourd'hui ont lieu dans des préfabriqués puisqu'il y a des travaux dans le lycée.
C'est une obligation depuis janvier 2017. Les communes ont interdiction d'utiliser les pesticides, sauf dans les cimetières et sur les terrains de foot.
Oui, les pesticides, un des produits pour désherber, pour enlever les mauvaises herbes. Sauf que voilà, il faut le souligner, les communes en Ile-de-France vont plus loin que ce que prévoit la loi, puisque les deux tiers n'utilisent plus du tout de produits phytosanitaires, hein, même pour les cimetières ou les terrains de foot. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Écoutez, Jonathan Flandin, il est écologue à l'Agence régionale de la biodiversité. Il était notre invité ce matin sur France Bleu Paris.
Ça fait partie des enjeux d'arrêt d'utilisation de ces produits, des enjeux de sur la biodiversité, hein, l'impact direct sur l'environnement, le sol, l'eau, la qualité de l'air, mais aussi en effet sur la santé humaine, la santé dans un premier temps des applicateurs, des personnes qui utilisent les produits, mais aussi des usagers, des espaces qui vont sur ces espaces traités. Et dans ce cas-là, on peut prendre l'exemple des terrains de sport, où on a les sportifs et les enfants qui vont sur ces terrains et qui parfois ont été traités. Donc il y a un enjeu de santé publique important. Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers, les jardiniers amateurs sont aussi concernés par la loi Labbé, puisque les produits phytosanitaires chimiques sont interdits à la vente et les particuliers n'ont pas le droit d'en posséder. Normalement, on n'a pas le droit d'en posséder.
Mais si on en a encore, on peut terminer son...
Non. On va dans sa déchetterie la plus proche pour se débarrasser de ces produits.
Et voilà, vous avez compris. S'il vous reste un petit peu de Roundup, normalement,
non, moi,
vous avez...
Non,
vous en avez à la main, vous, Laurent. Jonathan Flandin, donc, qui est écologue à l'Agence régionale de la biodiversité, interview à réécouter en intégralité sur francebleuparis.fr.